Du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Ils ne s'adressent donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration.
Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si la paix de la perdue est sur la toundra, tu succomberas.
Salutations à vous, gardiens de la noire citadelle hyperboréale! Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la toundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et 48, et diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire sur Internet et comme toujours en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et toujours magister secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui de se laisser être trimballé dans un tempétueux blizzard philosophique et d'être ainsi ensemble conduits dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici en toundra nunavutoise et en terre inuite les plus terribles mystères de notre culte et d'alors plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons, ô Sirapinois, chaotique divinité des vents sauvages, et ô Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarok et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Pour ce rite radiophonique de nos hurlements, qui en sera un carrément rageur, comme vous allez l'entendre et le ressentir, je vous propose une méditation singulièrement spécifique qui va s'accrocher à un détail archi-important. Et de plus, je vais la guider, cette pensée méditative, vers un aspect en particulier, cela en raison de la valeur que, sans équivoque, elle nous réserve. Voyez-vous, quelconque disciple qui décide de se fonder une secte black metal met sans aucun doute un redoublement d'efforts, de sérieux, de circonspection et de vision lorsque vient le moment pour lui ou elle de choisir un nom pour son projet et d'alors ainsi le baptiser. Cela n'est pas juste vrai pour les formations, groupes et projets du mouvement black metal, mais certainement, il y a là pour notre culte une tâche sévèrement, rigoureusement exigeante. Le choix étant d'autant plus significatif et manifestant plus nettement, plus distinctement, une expression et une volonté musico-spirituelle à fendre la foule. Prenez n'importe quelle formation, Emperor, Frozen Shadows, Grand Belial's Key, Wolves in the Throne Room, Ifernac, Vaughn et tout autre culte de notre majestueuse horde qui est véritablement légion, il est évident que le nom du projet est une clé des mystères, un indice qui suggère bien plus qu'une simple connaissance du message ou de l'intention des artistes qui en font partie, mais plutôt de ce que leur magie musicale est censée susciter en nous et vers quoi notre transmutation spirituelle et sauvage nous mènera. En appréhendant le sens profond du mot « Burzum », mais aussi de son choix comme bannière, il est clair, Varg t'exhorte, tout comme il le fait lui-même, à joindre les forces des ténèbres de la pensée humaine. Va de même avec Mayhem, avec son appel au chaos, Peste Noire avec sa montée de putrescence totale, Mutilation avec sa brutalisation de l'esprit comme de la chair, et ainsi de suite avec tout le reste. Personnellement, durant mes premières découvertes du black francophone, un des groupes dont le nom m'a le plus profondément frappé de par sa simplicité et son agencement stratégique par rapport à sa musique a été Forteresse. bastion de la fierté, de la rage et de la mobilisation insurrectionniste québécoise. Un nom comme celui-là dit tout, n'est-ce pas? Alors, si le leur en dit autant, d'autres le font pareillement. Et pour ce soir alors, nous allons donc explorer l'œuvre des groupes qui, pour des raisons que je vais pleinement vous dévoiler, ont choisi de complètement assumer leur rôle de missionnariat militant et d'adopter, à la façon d'un nom de guerre, des noms de fortifications, de redoutes, de châteaux et de tours de garde comme bannières. Ce, dans le but de résolument poser leurs vaillants efforts et de regaillardir et fortifier l'esprit black. Voici les forteresses du black metal. Pour commencer, il va de soi que nous débutons avec le sous-mentionné et toujours glorieux forteresse. Leur combat est le nôtre, fier québécois, mais j'ajouterai aussi métis et acadien. Et je vous le dis, écoutez-les alors qu'ils nous le rappellent ardemment, violemment, nous incitant à devenir les porteurs du drapeau de la liberté et du peuple, tout en reconnaissant, et je cite, que la force réside en chacun de ceux dont la fierté ne fut pas écrasée par le poids de la traîtrise. Notre allégeance, notre volonté et nos actions doivent rageusement suivre, car seul le combat peut nous servir de sens dans ce monde absurde et en déséquilibre total. Et seule cette forteresse peut nous servir de refuge, oui, mais aussi de fortification de laquelle nous nous armerons de zèle et d'ardeur pour alors lancer notre assaut final. Nous écouterons alors de leur dernier full-length Thème pour la rébellion paru en 2016 chez Sepulchral Productions, la tout simplement éclatante cantate offensive par la bouche de mes canons. Mais avant d'y passer, je vais bien inaugurer l'épisode en sinistre et duforme avec une bonne dose de magie noire. Et ce sera en compagnie de Dark Fortress que ce sera fait. Cet effroyablement performant culte allemand, lancé en 1994 comme un triumvirat et dont le seul membre de cette époque, Aswarger, maintenant joint de 5 autres disciples, nous a offert non moins de 8 excellentes parutions, chacune très bien reçue par la Horde. Au départ, leur black était à caractère symphonique et fantaisiste, mais leur art s'est rapidement développé au gré de nouvelles forces infernales invoquées, et justement, leurs derniers efforts manifestent de quoi de puissamment unique et qui mérite l'écoute solennelle et sauvage. Je vous ai sélectionné la chanson-titre de leur 6e album de longue durée, paru en 2010 chez Century Media, intitulé Ilem. Ce nom fait référence à une divinité que le groupe invoque des profondeurs du chaos ketonien, une ravageuse puissance cosmique capable de détruire toute matière, tout être, mais qui apporte avec elle une connaissance transcendantale. Si le groupe se veut une citadelle des savoirs et des sortilèges infâmes, gare à celui qui oserait l'opposer. Voici ma meute de la toundra, Dark Fortress! We'll be right back. frappant, pulvérisant morceau de nos champions de la revendication souverainiste, Forteresse. Des compositions comme celle-là, Les Cadavres, ça ravive en crise mes passions ancestrales, mais aussi ma fierté personnelle. C'était par la bouche de mes canons, tiré du formidable album Thème pour la rébellion. Définitivement un des meilleurs de toute la scène métal québécoise, mais aussi, selon moi, un des plus importants albums francophones des 5 dernières années. Et avant cela, ce fut Dark Fortress qui érigea une infranchissable structure d'euphonie luciférienne intitulée Ilem, où nous nous perdons parmi de vertigineuses harmonies, mais réussissons à prendre pied dans l'abîme du chaos sacré. Une forteresse devenue cathédrale de l'anéantissement cosmique. Tous deux, malgré leurs différences sur le plan thématique, reviennent à cette même idée. Leur projet musical est en quelque sorte un renforcement stratégique de force et de la position de celle-ci, et ce vis-à-vis un monde hostile qui l'assiège. Une forteresse retient la fonction de ralentir l'attaquant et de protéger ses troupes. Or, son édification devient aussi un acte offensif majeur, symbolisant une prise résolue et déterminée de pouvoir, non seulement sur le territoire et le peuple qu'elle occupe, mais sur le terroir environnant. Une forteresse est une force inébranlable en soi, une menace certaine. Et pour les partisans qui y sont stationnés, le siège du pouvoir dominateur ou envahisseur. Le black metal opère ainsi, cela est clair. La horde unifiée comme un contre tous, prête à l'attaque, prête à attaquer, et en confrontation complète et en pleine hostilité ouverte. Cela, nous l'avons amplement vu et entendu lors du premier chapitre. Mais certaines fortifications deviennent plus que de simples structures militaires. Que nous parlions de forteresses, de châteaux, de bastions ou autres, souvent leurs funestes histoires ont fait d'elles la scène d'innombrables tragédies sanglantes, soit en temps de guerre envers des combattants ennemis, soit en temps de paix envers les victimes des souverains cruels qui les auraient habitées. Oui, bien qu'elles puissent être une source possible de sécurité, de confort et de ralliement collectif, une telle fortification peut tout aussi facilement être le symbole réel d'oppression, de dureté et de tyrannie des plus atroces, ou encore de sordide décadence aristocratique et de perversion déshumanisante. Une bonne source d'inspiration pour nos plaisirs infâmes, autrement dit, mais peut-être aussi pour de plus profondes et perçantes contemplations de la misérable nature humaine. Pour le prochain chapitre, je vais vous présenter 3 telles forteresses de la cruauté et de la tragédie dont le nom est la bannière de 3 formations black metal. En premier, de notre confrère des ombres et compatriote québécois Strigate, nous avons le fabuleux projet Cheyté, qui s'inspire directement de l'histoire de la célèbre comtesse sanglante Bathory Erzsébeth. Suite aux ardentes imputations d'un pasteur luthérien et ensuite de nombreux témoignages à charge, la femme noble hongroise du 16e siècle fut accusée de sévices et du meurtre de filles et de jeunes hommes, dans le sang desquels, selon la légende, elle prenait ses bains, cela dans le but de gagner une beauté perpétuelle. Sa résidence est la scène d'une telle débauche sadique et plus tard, la prison dans laquelle elle fut emmurée est le château de Kačice, la prononciation slovaque du hongrois Cheyté. L'édifice a été construit au milieu du 8e siècle comme sentinelle sur la route de Moravie et aujourd'hui, elle n'est que ruine. Mais certainement, la dame sanglante hante toujours le lieu et nous présage encore, du moins de par la musique de Sir Strigate, l'horreur de la voracité humaine. Écoutons de Cheyté une pièce de son dernier effort, L'horreur de Kačice, paru l'an passé chez l'étiquette québécoise HSP Productions, et ce sera la pièce Nébuleuse Tentatrice. Et ensuite, parlons d'un autre sanguillonnante demeure, un autre château parfois appelé Citadelle, qui fut le point stratégique de contrôle du passage entre la Valachie et la Transylvanie érigé au début du 8e siècle par les voïvodes valaques. Situé sur un plateau au sommet du mont Cetatea et accessible en grimpant 1480 marches de pierre, il s'agit de l'imposant château nommé Puenari, une des demeures du redoutable Vlad Tepes, dit l'Empaleur, troisième de sa lignée et celui qu'on surnomma le fils du dragon, ou bien certainement Dracula. Ce fut une forteresse d'atrocité barbare et de cruauté tyrannique, et la juste scène de guerre cruelle et de tragédie incommensurable. D'après une légende, la femme de Vlad, qui voulut s'échapper de Puenari lors d'une attaque, trouva la mort en tombant du haut de la falaise au pied de ses remparts. Vous vous en rappellerez, cela fait l'objet d'une splendide scène exploitée par Francis Ford Coppola dans son admirable film. Et on s'en étonnera pas, le château a pareillement inspiré des disciples Black à ériger leur propre forteresse musicale de sadisme fantastique.
fantasmagorique et de vampirique menace, dont Poinarian Mist, un projet One Man de l'Espagne, et Poinari, le groupe que nous allons entendre en deuxième dans ce chapitre. Poinari est un triumvirat émergent de la Varsovie, le projet de trois jeunes qui, fougueusement et par passion pure pour le black metal, se lancèrent dans une aventure que nous connaissons que trop bien. S'initier aux noirceurs, connaît ses douloureux mystères, joindre ses efforts à ceux de l'Underground Infernal et de là, relancer toute sa haine et toute sa bileuse volonté vers ses ennemis comme vers ses compères, si pas le monde entier. L'ambition ne manque jamais aux fanatiques black, oh que non. Alors, ce que vous allez entendre ici ne sera rien d'exceptionnel, mais cela nous va, car l'écoute de notre glorieuse musique liturgique n'est pas accomplie dans l'unique but de rassasier les appétits esthétiques, mais tout simplement de les perpétuer et de les partager. Alors, je vous invite à écouter à cet humble mais puissant groupe du souterrain polonais, Poinari, avec un morceau de leur deuxième et dernière parution, Wrath War Lucifer, sorti en cassette en 2013 grâce à l'initiative du fanzine Vomitorium. Et ce sera la fulgurante chanson Of Madness. Et pour finir ce chapitre, nous allons découvrir un château situé dans des contrées mauditement moins exotiques, mais néanmoins qui nous imposera un exotisme déséquilibrant en raison de son étrangeté géographique. Le saviez-vous, cadavre, que le Canada a aussi ses châteaux? Pas plusieurs, et certes, pas des châteaux qui auraient été construits dans le but de devenir une fortification militaire. Malgré qu'à ça, nous pourrions facilement penser aux plusieurs forts de l'Acadie, de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. Mais de véritables châteaux qu'on pourrait qualifier d'ornementaux, nous en avons, comme entre autres le Casa Loma à Toronto, le château de Ramsay à Montréal, le Castle Manor à Moncton et à Sydney, en Nouvelle-Écosse, le château Moxham. Ce dernier, qui était avant sa destruction situé près de la capitale régionale de l'île du Cap-Breton, est d'une excessivement curieuse construction, étant en fait originalement bâti à Lorain dans l'État américain de l'Ohio. L'entrepreneur Arthur Moxham l'avait fait bâtir pour son épouse, un château qui initialement comprenait 30 chambres avec un théâtre au quatrième étage et une piscine au sous-sol, et qui finalement avait été déplacée et reconstruite brique par lourde brique à Sydney, suite au déménagement de la famille là-bas. Étrangement, après une série de tragédies familiales presque aussitôt survenues, le château fut négligé, finissant comme un hôpital militaire durant la Grande Guerre de 1914 et comme résidence privée pour quelques familles, jusqu'à ce qu'il tomba en désuétude complète durant les années 50 et succomba à un incendie de vandale en 1966. Une intrigante histoire avec plus d'un brin d'ironie tragicomique qui nous démontre comment, malgré les méprisables efforts de la soi-disant classe élite à s'isoler de nous, la crasseuse plèbe, dans leur ridicule tour d'ivoire et d'arrogance, ils finissent tous par mourir et pourrir comme nous, et leur héritage a tombé en ignominieuse ruine. Et tant pis! Mais comment est-il merveilleux qu'un groupe de jeunes musiciens du coin, de Whitney Pier plus précisément, décidèrent de le ressusciter de la ruine et de l'oubli en baptisant leur projet Moxham Castle. Derrière ce choix, il y a la même idée critique de la grossièreté pseudo-aristocrate, mais en même temps, on ressent une misanthropie totale et les deux tensions, chaotiquement, semblent être au cœur de son œuvre. Ce constat paraît juste en crise, surtout étant donné le titre de leur premier effort, Crucified the Commoners, et son unique titre, Zombies of Society. Et aussi étant donné son bouleversant mélange de D-beat et de black metal. C'est de quoi à brasser la cage, et dans presque à l'instant à entendre. Je vous jouerai le dernier et ultra court titre de leur EP Consume, la persifleuse pièce Shittyat. Attention, ça s'en vient vers vous, mais en premier, le chapitre commence immédiatement avec mon confrère Strigat et ses cris de l'outre-tombe. Voici Shittyat!
cadavre du Black qui empeste le varech de la côte atlantique, je vous le dis, ça aussi, ça ravive. C'était pour finir notre deuxième chapitre du rite de cette soirée qui vous appelle à connaître les forteresses du black metal. Et ce bloc-ci en particulier a été consacré, comme vous l'avez entendu, à des châteaux de cruauté, de tragédie et d'ironie qui deviennent pour nous le théâtre de macabre fantasmagorie musicale et l'objet de déroutantes découvertes. Ainsi, nous pouvons dire que notre pérégrination est solidement, fortement bien en cours. Une première partie a été accomplie et une autre reste à compléter et la thématique a été davantage exploitée. Mais là, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Et alors, je vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend. Et sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la toundra.
Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti.
La meute, un bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, nous sommes en grande tournée et grande découverte de groupes qui, pour toute fin pratique, esthétique et même fucking ésotérique, ont choisi de se baptiser des forteresses. Pour autant, ils nous présentent pour nous, disciples du noir culte, un point de repère et de rassemblement, un refuge des hostilités interminables auxquelles nous faisons obstinément face et un lieu de ravitaillement existentiel pour les assauts que nous allons sûrement, assurément toujours faire suivre. Chaque culte musical que je vous ai présenté jusqu'à date et vous présenterez pour la prochaine demi-heure, en sera un ainsi nommé. Un château, une bastille, une citadelle ou une forteresse. Et de par une de leurs pièces, vous êtes invités à pénétrer leur donjon et de la connaître chacun son lugubre savoir d'élite. La forteresse est une structure de consolidation de forces militaires, certes, mais étant une fortification érigée contre une force externe, elle est aussi un lieu d'isolement extrême. Laisse seulement l'effroi, la haine et le désir d'évasion que doivent susciter ces sombres corridors, remparts et crypte, ainsi que hanter les esprits de ses occupants, doivent être intenses et inspirer des ambitions et fantasmes particuliers. Pensez aux aristocrates aussi décadents que puissants et à leurs cruels caprices, mais aussi aux anachorètes et à leur dégoût total du monde des hommes, qui les pousseraient à s'enfuir et à trouver leur sanctuaire dans un triste monastère isolé. En suivant une perspective plus romancée, imaginez ces alchimistes magiciens et savants, assoiffés de connaissances interdites, qui voudraient se réfugier dans une tour reculée, un lieu où ils pourraient pratiquer leurs opérations infâmes et découvrir de sinistres savoirs occultes. Les deux prochains groupes sont de cette dernière catégorie, chacun se tenant comme une force solitaire dans le boréal et hyperboréal paysage du black metal, et ce, moins afin de mettre à la vue de tous leurs impressionnantes splendeurs et plus pour se permettre à eux d'orchestrer l'essor d'une singulièrement nécessaire et unique sortilège. Borknagar est un groupe à ainsi retenir, le nom duquel semble indiquer un amalgame étymologique de Bork ou bourg en français, et burgus en latin, c'est-à-dire un fortin, et de nagar, un nom propre de signification incertaine, possiblement de l'ancien sanskrit pour un rassemblement d'hommes. Ainsi, le groupe formé par le Norvégien Øystein Garnes Brun nous présente une telle image, celle d'une insolite et bizarre forteresse érigée au loin du monde des hommes, dans l'unique but de la s'épurer de la souillure mondaine et d'accéder aux grands secrets transcendantaux. Certes, son nom, comme son étrange et ambitieuse musique, nourrie par les sortilèges de musiciens émérites comme, entre autres, ICS Vortex d'Arcturus et Dimir Borgir, Lazar Nedlin de Solifald, Grimm de Gorgoroth et Christopher Rigg de Ulver, propose une magie black aux nuances folk et progressives à nous envoûter au plus haut point. Faisons-le avec une absolument extraordinaire composition tirée de Quintessence, leur quatrième album paru en l'année 2000, le titre Colossus, qui nous appelle à appréhender une profonde sagesse spirituelle. Je cite ces paroles de la fin. Seul le processus nous ouvre à l'infini, à l'éternel, à l'interminable et à l'indéfini. Et pour y faire suite, je vous présenterai Forlorn Citadel, le projet One Man du mage australien Solus, qui s'est pareillement mais solitairement créé un sanctuaire musical dans son égarement ontologique, qui l'amène à la rencontre, et nous avec lui, de vastes univers mystiques. Avec ses froids airs à la fois sentimentaux et sinistres, il nous initie à des temps oubliés qui sont péniblement lointains, mais qui, paradoxalement, dans une imagination déchaînée, sont sur le bord de la redécouverte. Écoutons une pièce de son seul album de longue durée, Ashen Dirt,
Scourge of Kingsland, paru en janvier de cette année chez l'étiquette Northern Silence Productions, son deuxième titre, Forth with Thine Guildhem Strong, un magistralement flamboyamment épique opus à la vigueur guerrière et à la bravoure indomptée. Seul ou en horde, comptez-vous parmi l'élite Black les cadavres, et partons en croisière des prodiges autrement inaccessibles. Voici Forlorn Citadel, et en premier, Barkanaga!
Oh,
un chapitre d'élucubration nostalgique et de révélation mystique. On vient d'entendre le puissant colossus de la horde nordique Borknagar, poursuivi de Forth with Thine Guildhem Strong du thaumaturge austral Forlorn Citadel. Comme dernier bloc maintenant, je vous suggère cette pensée concluante. Le black metal est votre mec maléfique, l'objet de votre sinistre pèlerinage spirituel, un point impossiblement lointain, inaccessible peut-être, qui demande à être atteint par-delà vos attentes, vos désirs, vos capacités et même vos perceptions. Et que ces robustes bastions, caverneuses, douves et impérieuses tours, résisteront à l'introduction de tout opposant et traître, et que ces secrets et trésors demeurent cachés des yeux et des sales griffes des infidèles et des usurpateurs. Mais sachez, chers initiés au mystère de la tombe et des ténèbres, que pour vous, la noire flamme qui nous porte vers sa sinistre découverte, elle brille en nous de notre sombre intérieur. Et sa cruelle puissance, elle tire sa force de la nôtre. Alors que nous soyons nous-mêmes une forteresse de l'invincible et de l'éternelle noirceur, de l'invincible et de l'éternelle froideur, aussi résistante que les pierres spirituelles qui l'ont bâtie et aussi magistrale que les ambitions qui l'ont élevée. Pour en finir avec notre périple, je vous offre alors ce dernier chapitre de Forteresse Black Metal afin de vous renforcer l'esprit jusqu'à l'appel de notre prochaine noire convocation et d'autant plus au-delà. Commençons avec une remarquable trouvaille. Spectral Tower, le duo des acolytes Jeff Lurie et Dane Adair de San Luis Obispo de la Californie. Ils n'ont que pour une seule fois collaboré ensemble dans le but de créer une musique lovecraftienne black aux nuances doom et totalement évocatrice des cauchemars extradimensionnels, ceux qui guettent depuis toujours l'humanité. De leur tour de garde interstellaire, ils nous font vivre une appréhension inhumaine, sûrement le moyen même pour nous de communier avec des entités que la raison comme la folie nous pousse à oublier. Écoutons de leur seul album et seule parution, l'album éponyme paru quand les étoiles étaient néfastement alignées, en janvier 2014, et ce sera l'hymne intitulé Mountain Throne. Et pour finir le chapitre et clore le rite, je vous laisserai avec une découverte toute récente faite dans le cadre de mes recherches obscures pour cet épisode-ci. Bastion of Darkness de l'Ukraine. Le projet de trois cultistes qui ont autrefois œuvré dans les ombres des monts Ourals pour ne laisser là, eux aussi, rien qu'une seule offrande obscure. Ce fut la démo sans titre de 2004 et franchement, c'est justement le type de black metal sépulcral dans tous les sens du mot que j'aime de déterrer et de réanimer pour vous en convocation nécromantique comme celle-ci. Écoutons, pour finir la soirée, Bastion Timmy ou en français, Bastion des Ténèbres. Mais en premier, ouvrons large le portail chimérique et grimpons sans hésitation les nébuleuses marches devant nous. Voici Spectral Tower! We'll be right back.